Et jusqu'au 22 mars, c'est la semaine de la sensibilisation à la santé du cerveau. Le cerveau, un de nos organes les plus mystérieux, continue de fasciner les chercheurs du monde entier. On pousse la recherche toujours plus loin pour traiter les tumeurs, on fait la lutte au fléau grandissant de la dégénérescence cognitive et on essaie de comprendre l'impact de l'intelligence artificielle sur nos neurones. Alors ce qui se passe entre nos deux oreilles est source d'encore beaucoup de questions. Et pour en parler, je joins le docteur David Fortin, neurochirurgien, neuro-oncologue et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Bonjour docteur Fortin.
Oui, bonjour Emeline, merci de me recevoir.
Mais merci à vous d'être avec nous, c'est toujours important d'entendre des experts comme vous. Alors, vous passez vos journées justement à opérer un des organes les plus complexes du corps humain. Qu'est-ce qui continue de vous fasciner par rapport au cerveau?
Ah mon Dieu, c'est que après 25 ans dans cette carrière, je demeure loin de comprendre tout le fonctionnement de cet organe-là. Je fais beaucoup de recherches sur le cerveau, non seulement la pratique clinique, mais aussi pour la confection de bouquins. Je m'intéresse à faire de la vulgarisation scientifique sur le domaine. Puis je me tiens au courant, je lis beaucoup, beaucoup, et je sais que je vais finir ma vie sans savoir comment le cerveau fonctionne dans le détail.
Ah oui.
Alors, c'est quand même fabuleux, non?
Mm-hmm.
Cet organe-là est d'une complexité insoupçonnée.
Oui. Qu'est-ce qui reste encore comme grand mystère autour de notre cerveau?
On doute presque tout. Prenez simplement la conscience, la conscience qui nous anime. Je vous dirais dans un premier temps qu'on ne s'entend même pas sur une définition uniciste et claire de ce qu'est la conscience. Il y a même des gens qui remettent en question que la conscience se reproduit dans notre cerveau. La conscience, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. C'est tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous qui est internalisé, qui est subjectif. Mm-hmm. Et donc, on présume que tout ça émane de notre cerveau, mais on n'a encore toujours aucune idée comment cette conscience-là est produite, comment elle garde une certaine unité toute notre vie. Parce que
oui,
nos corps changent toute notre vie, mais la conscience, elle demeure relativement singulière et unicée, je dirais. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un des grands mystères du cerveau, puis on est toujours très loin d'une résolution de ce mystère-là.
Mm-hmm. Oui, c'est effectivement une des questions qui reste en suspens pour l'instant. Mm-hmm. On parle aussi avec vous, évidemment, de cette semaine, de la sensibilisation à la santé du cerveau. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont les meilleures façons de protéger cet organe important?
Je vous dirais que le truc le plus simple à déployer, mettre en pratique, c'est d'abord et avant tout de prendre soin de sa santé vasculaire. Et là, je m'explique. Dans votre corps, vous avez énormément de vaisseaux sanguins. Vous en avez énormément dans votre cerveau. Votre cerveau pèse 3 % du poids de votre corps, mais consomme 20 % de toute la circulation sanguine du corps. C'est, et de loin, l'organe le plus vascularisé. Mmh. Vous avez l'équivalent de 650 km de vaisseaux sanguins dans votre tête. Donc, si vous prenez soin dans un premier temps de vos vaisseaux sanguins dans l'ensemble de votre corps, bien directement, vous allez prendre soin de votre cerveau. Et maintenant, comment prendre soin de ces vaisseaux sanguins? Oui. Bien, ce sont les conseils habituels qu'on entend. Faire de l'exercice physique, essayer d'éviter le surpoids, contrôler la pression artérielle, éviter le tabagisme et puis éviter l'hypercholestérolémie. Donc, essayer de garder un profil lipidique là, qui est relativement sain. Puis ça, bien, c'est un corrélat assez direct de l'alimentation, entre autres.
Mm-hmm, mm-hmm. Oui, ça regroupe les bons conseils qu'on entend, évidemment, sur la santé humaine. Alors, on en parlait au début de cette entrevue, docteur David Fortin. Vous vous intéressez aussi à l'intelligence artificielle. Vous allez d'ailleurs sortir un nouveau livre qui s'appelle « Le grand mirage, pourquoi l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain ». Ça sortira là le 1er avril. Alors, parlez-nous de cet ouvrage-là et de cette thématique, justement. Est-ce qu'on a des raisons quand même d'avoir peur ou non, il faut être plutôt serein?
Bien, on a tout à fait raison d'avoir peur, mais pas pour les raisons qui sont fréquemment évoquées.
Mmh.
En fait, de manière relativement simple, je vous dirais, dans un premier temps, que le lobby de l'intelligence artificielle aime souvent nous proposer l'idée que l'intelligence artificielle va nous remplacer, va dépasser nos capacités cognitives et va devenir consciente.
Mm-hmm.
Moi, je répondrais à ça. En fait, le livre a été écrit pour répondre à ça, en disant non, ça ne va pas nous dépasser, ça ne va définitivement pas devenir conscient. Par contre, il faut s'inquiéter de l'intelligence artificielle parce que on le voit, les gens qui œuvrent dans cette discipline-là font des bonds géants. L'intelligence artificielle s'améliore de manière exponentielle d'année en année. Il faut le répéter, ce n'est que du mimétisme, ceci étant, hein, parce que l'intelligence artificielle ne fait que utiliser le big data, les grandes données, qui sont en fait des écrits qui ont été colligés par des êtres humains, construit des relations statistiques avec ça et est capable de nous pousser des textes qui sont tout à fait intelligibles. Ça, c'est très bien, mais l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'elle dit, ne ressent pas ce qu'elle prétend ressentir parfois. Donc, ce n'est qu'un simulacre de ressenti. Ça, c'est numéro un. Puis numéro deux, je vous dirais, il faut s'en inquiéter parce que malheureusement, ça devient tellement prolifique à écrire et même à analyser des textes que si on utilise l'intelligence artificielle en remplacement de nos fonctions cognitives, bien, nos cerveaux vont s'atrophier. Hein? Il y a un concept qui s'appelle « use it or lose it ». Et si on arrête d'utiliser nos cerveaux, si on se met à lire moins, à faire moins d'analyse de texte, bien, clairement, on va devenir moins habile à faire ces activités-là. Puis si on délègue ça de manière importante à l'intelligence artificielle, bien, au fil des générations, nos cerveaux vont s'atrophier.
Ah oui, il y a quand même absolument. Risque dans l'autre sens aussi.
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est mesuré et c'est mesurable. Hein. C'est mesuré au niveau de la fonction, mais c'est aussi mesuré au niveau de la structure du cerveau où on voit que chez les gens qui font beaucoup de consultations de médias sociaux au détriment de la lecture, par exemple, ben, il y a une atrophie dans les réseaux cognitifs qui sont impliqués dans la lecture. Ça, c'est mesurable à la résonance magnétique. Là.
Ah oui, c'est très intéressant. Pour terminer avec vous, Dr Fortin, parce qu'on pourrait en parler des heures, hein, du cerveau, de l'IA aussi, parce que c'est un sujet important, mais qu'est-ce que ça vous inspire de voir aussi ces robots, ces humanoïdes qui sont créés et qui fonctionnent avec de l'IA? Est-ce que peut-être que la peur, elle vient de là aussi, de voir quelqu'un en face de nous qui ressemble à un humain, mais qui n'en est pas un, évidemment?
Ben ça, c'est intéressant parce que nous, les êtres humains, on a toujours tendance à anthropomorphiser, à essayer de rendre les choses à notre image. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas du tout. Je serais même pas opposé à avoir un robot qui fait du service autour de moi.
Ah oui?
Je vous dirais, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'illusion. Cette illusion-là, elle est faite que le robot va ressentir, va avoir des émotions humaines. Parce qu'encore une fois, dans un robot qui est anthropomorphisé, qui ressemble à un être humain, on peut lui faire simuler des émotions. Mais il faut comprendre que le robot ne ressent rien à l'intérieur de lui. Des émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on peut traduire en langage mathématique. Donc ça m'inquiète. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça pour du cash, si vous me permettez l'expression. Ouais. Hein, il y a une étude qui a été menée à l'Université de Waterloo il y a 2 ou 3 ans de ça qui sous-entend que la majorité des jeunes du grand public pensent que les générateurs de textes, comme les ChatGPT de ce monde, sont conscients et ressentent. Parce que le texte qu'ils vont nous suggérer des fois laisse penser que c'est le cas. Mais ce n'est que du mimétisme, ce n'est qu'une illusion. Puis ça, il faut comprendre ça, puis il faut faire attention à ça.
Ben oui, et prenons soin de nos cerveaux humains.
Absolument.
Qui sont la clé. Merci beaucoup, Dr David Fortin. Vous êtes neurochirurgien, neuro-oncologue et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke. Grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous.